Alors, nous allons continuer notre voyage géographique sur la modernité ottomane pour ce cours-ci, cette heure-ci, voir la modernité dans l'espace syrien au sens large du terme, évidemment. Alors, on commence évidemment par le Liban, avec le premier gouverneur de la province indépendante, enfin autonome du Mont Liban, dépendant de Constantinople, la Moutassarifia du Mont Liban, donc Daoud Pacha, nommé par la porte, mais avec l'approbation des puissances. Daoud Pacha, c'est un fidèle de Fouad Pacha. Vous devez être assommé par le nombre de Pachas que je vous sors. Mais j'y peux rien, cette période est connue, y compris aujourd'hui par les gens, comme quand ils disent Zaman al-Bachawat, le temps des Pachas, exactement comme en France on disait le temps des seigneurs. Hein? Et en effet, cette seconde moitié du 19e siècle, c'est un Zaman al-Bachawat, un temps des Pachas. Et on va dire assez souvent, quand dans l'usage populaire, on aime bien remettre des Pachas. Dans la vie politique ou autre. Donc, c'est un zélateur des réformes ottomanes et il inaugure la série des chrétiens non libanais, gouverneurs de la montagne, qui considèrent que c'est un pays plutôt interdé du fait de son confessionnalisme et du cléricalisme des populations chrétiennes. Là, il faut bien comprendre que ces fonctionnaires ottomans chrétiens sont presque des laïcs ou des anticléricaux. Hein, et ils trouvent que, franchement, ces Libanais sont désespérants par leur querelle d'église, de secte et autres. Mais c'est vrai aussi que le premier adversaire des gouverneurs, c'est l'église maronite avec son patriarche. Et pendant longtemps, l'Église maronite va essayer d'éliminer, de supprimer cette province pour donner le pouvoir aux maronites. Au début, la France était plutôt hostile à la Moutassarifia, et puis finalement, elle va progressivement se ranger du côté des gouverneurs de la province. En 1864, Daoud est prolongé pour 5 ans et le règlement organique est légèrement amendé en faveur d'une meilleure représentation des maronites qui constituent la majorité de la population. Le gouverneur cherche de faire de sa province un modèle de bonne administration et tend à prendre de la distance par rapport au pouvoir central. La question est de savoir à qui doit-il rendre des comptes, au gouvernement ottoman qu'il a nommé ou aux puissances européennes qui sont garantes de son gouvernement. Donc là, vous avez la carte de la Moutassarifia. Comprenez bien qu'elle n'atteint pas le littoral. Hein. Elle est dans la montagne, même si la frontière frôle le littoral. Le littoral ne fait pas partie de la Moutassarifia du Mont Liban. La porte, elle cherche à éviter le maximum de complications de ce dossier. Pour elle, il y a deux dossiers empoisonnants, les lieux saints qui ont provoqué la guerre de Crimée et le dossier libanais qui a provoqué l'intervention française en 1860. On octroie des réparations aux victimes des événements et on accorde une aide financière à la province autonome. Le règlement prévoyait que le gouvernement central devait couvrir le déficit entre le revenu des impôts et les coûts d'administration, mais non ceux du travaux public. Donc au début, la porte paye les déficits des budgets de la province pour calmer le jeu. Mais très rapidement, les habitants considèrent que c'est un droit, d'où ensuite la création d'un contentieux puisqu'il arrivera un moment où la porte n'a plus envie ou n'a plus les moyens de payer le déficit de la province du Liban. Et donc, elle exige qu'on augmente les impôts. Et évidemment, les habitants refusent cette augmentation des impôts, ce qui crée une différence de fiscalité entre la province libanaise et l'extérieur. Donc, qui dit différence de fiscalité dit contrebande et évasion fiscale. Les gens se faisant domicilier dans la montagne tout en vivant à Beyrouth pour payer ainsi moins d'impôts. D'où le fait qu'à chaque fois que l'autorité ottomane essaye de rétablir la justice fiscale, ça provoque des tensions où on accuse de persécution contre les chrétiens et autres. Finalement, le régime se consolide. Une tentative de soulèvement local est étouffée habilement en 1866. Et finalement, être habitant de la Moutassarifia a beaucoup d'avantages. On paye moins d'impôts et on n'est pas soumis à la conscription. Et finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une entente entre hommes d'ordre. C'est ça qui sera caractéristique de la fin du XIXe siècle. Les consuls et les gouverneurs sont des hommes d'ordre. Et finalement, ils trouvent les uns et les autres que les populations arabes sont insupportables, indisciplinées, toujours provoquant des troubles confessionnels, etc. Et que finalement, on peut mieux s'entendre entre des gens qui se comprennent. C'est-à-dire des hauts fonctionnaires européens et des hauts fonctionnaires ottomans qu'avec ces gens insupportables qui sont leurs administrés. Le second gouverneur, Franco Nasri Kossa, nommé en 1868, maintient cette ligne de gouvernement. Mais il faut dire que pour la période 1870-1871, la guerre franco-prussienne mobilise les esprits, donc on ne s'occupe pas du Liban. Le troisième gouverneur, Rustem Pacha, voit une tentative de la France de rétablir son autorité. Mais le gouverneur s'en tient à la ligne de loyalisme ottoman et d'équilibre entre les puissances et les communautés. Donc ça, c'est la montagne. Mais ce qui compte, évidemment, c'est l'essor de Beyrouth, qui n'est pas dans la montagne, hein, qui est une ville ottomane, qui n'est pas dans la montagne. Beyrouth, qui a pris l'ouverture de la route avec Damas, la première route à péage et carrossable de la région, s'affirme de plus en plus comme la capitale économique du Bilad al-Sham, des régions syriennes. Si le commerce avec l'Europe est prépondérant, ce sont des hommes d'affaires locaux qui s'imposent et non des Européens. Ça, c'est la grande différence entre Beyrouth et Alexandrie. Alexandrie, les Levantins d'Alexandrie, ce sont des étrangers, des Grecs, des Juifs, des Syro-Libanais, des Maltais, etc. Les Levantins de Beyrouth, ce sont des locaux. Y a pas d'Europe, enfin, quelques Européens parmi eux, mais ils ne forment pas un groupe important. La ville s'impose comme métropole intellectuelle, d'abord avec le grand Boutros al-Boustani, dont on a déjà parlé, qui prend ses distances avec les missionnaires américains en créant une école nationale. De leur côté, les missionnaires américains se lancent dans une opération de levée de fonds aux États-Unis en dépit de la sécession en cours, de la guerre de sécession en cours. Ils peuvent ainsi fonder en 1866 le Syrian Protestant College, donc vous voyez le premier bâtiment ici sur cette photo, qui comprend initialement deux sections, l'une littéraire, l'autre médicale. En 1870, l'établissement s'installe dans la région, à ce moment-là, déserte de Ras Beyrouth, pour constituer progressivement un vaste campus à l'américaine. L'arabe et l'anglais sont les langues d'enseignement. Progressivement, l'anglais supplante l'arabe et devient la langue exclusive dans les années 1880. Alors, vous avez tous les phénomènes de modernisation qui se produisent. Par exemple, au Syrian Protestant College, dans la section médicale, on enseigne l'art du dentiste, l'orthodontie, qui est une invention américaine. En Europe, il n'y a pas encore de dentiste. Les premiers dentistes en Europe sont les Américains. Mais on en a déjà des formations de dentistes à Beyrouth dès la fondation ou dès les premières années du Syrian Protestant College, que vous connaissez tous, enfin, vous savez qu'il existe toujours sous le nom d'une université américaine de Beyrouth, la UB. En 1800, donc, les missionnaires catholiques vont, eux, répliquer en multipliant les établissements d'enseignement secondaire dans la ville. En 1870, les jésuites achètent un vaste terrain pour établir un collège dédié à Saint-Joseph, qui ouvre en 1875. Ses diplômes sont reconnus par la France, qui lui apporte une aide financière. Le collège de Saint-Joseph devient l'université Saint-Joseph en 1881. Son école de médecine accorde des diplômes français et ottomans, tandis qu'on établit une section des études arabes avec la création de la bibliothèque des langues des lettres orientales dans les années 1890. Donc c'est le paradoxe que les protestants, qui sont beaucoup plus ouverts aux musulmans, parce que la majorité de leurs élèves sont des musulmans, enseignent en anglais, tandis que les jésuites, qui sont l'instrument de la pénétration française, ont toute une section arabe qui n'existe pas chez les protestants. En particulier, les jésuites publient massivement en arabe ce que ne font pas les protestants. Alors, il faut comprendre, hein, Syrian Protestant College et l'Université Saint-Joseph sont les deux premières universités du monde arabe sur le plan chronologique. En Égypte, il n'y a qu'une espèce d'école normale supérieure, Dar el-Funun, la maison des arts, et à Istanbul, c'est le même cas, même si le Dar el-Funun d'Istanbul va progressivement se transformer en université. Mais disons que pour la fin du XIXe siècle, les deux seules universités existantes dans le monde arabe indépendant, puisqu'il y a l'université française d'Alger, évidemment, en structure coloniale, c'est les deux universités, la protestante et la catholique, de Beyrouth. Il faudra attendre 1908 pour qu'une fondation privée en Égypte crée l'université du Caire, qui ne viendra vraiment une université que dans les années 1920, sur le modèle de la Sorbonne. Donc, pendant des décennies, les deux seules universités arabes, enfin dans le monde arabe, sont à Beyrouth, ce qui explique évidemment la place essentielle que Beyrouth joue dans la renaissance intellectuelle arabe, puisque c'est le seul endroit où se trouve l'enseignement supérieur dans le monde arabe, si on ne tient pas compte d'Al-Azhar ou des séminaires catholiques, mais qui sont quand même des créations religieuses et non pas à but scientifique et littéraire. Beyrouth, c'est aussi la ville des journaux, des revues en langue française et arabe, particulièrement actifs. Et on a, et ça c'est un côté très positif du Beyrouth de cette période, la concurrence des communautés. Dans la mesure où les catholiques et les protestants sont en tête avec leurs universités, les orthodoxes suivent et créent à leur tour leur propre réseau scolaire pour éviter que les orthodoxes aillent dans les écoles des catholiques et des protestants, pour éviter le prosélytisme. Et ils vont obtenir le soutien de la Russie impériale pour créer leurs propres écoles orthodoxes. Et puis ensuite, avec un petit décalage chronologique, les musulmans, à leur tour, créent leurs propres écoles pour lutter dans cette concurrence avec les écoles chrétiennes, missionnaires et non missionnaire, ce qui amènera en 1878 la création de la Société des œuvres caritatives islamiques, Jamiaya al-Maqasid al-Khairiya al-Islamiya, qu'on appelle tout simplement les Maqasid encore aujourd'hui. Du côté juif, l'Alliance israélite universelle évidemment crée ses propres écoles. Donc on voit ce paradoxe libanais absolu, qui est un cosmopolitisme, une ouverture au grand monde, en contraste avec l'univers fermé de la montagne. Mais en même temps, cette ouverture au grand monde se fait dans le cadre d'une concurrence confessionnelle dans le domaine scolaire. Mais les écoles sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de monopole confessionnel. Les non-catholiques peuvent aller dans les écoles musulmanes ou protestantes et inversement. Sans pouvoir disposer de statistiques approfondies, il semble néanmoins que la participation des musulmans arabes à l'enseignement moderne missionnaire soit plus importante que celle des musulmans turcs dans le reste de l'Empire. Autrement dit, si vous regardez les cartes de scolarité et de formation des élites dans l'Empire ottoman finissant, vous avez un gros pâté autour de Beyrouth, tandis que c'est beaucoup moins dense pour l'Anatolie, sauf évidemment dans la capitale de l'Empire. Beyrouth est l'un des grands centres de formation des élites dans l'Empire ottoman finissant. C'est évidemment aussi avec le Caire et Alexandrie le lieu de la renaissance littéraire arabe qu'on appellera ultérieurement la Nada. Cette renaissance est liée directement à la diffusion d'imprimerie. Le fait de s'adresser à un public toujours plus nombreux conduit à l'abandon des préciosités de la culture du manuscrit. L'évolution porte surtout sur une simplification de la syntaxe et à la constitution d'une langue arabe moderne plus compréhensible. L'existence d'une audience spécifique et d'un besoin de connaissance fait ainsi émerger la catégorie nouvelle de l'intellectuel, distincte de la figure traditionnelle du savant en religion. Ces intellectuels sont liés à l'appareil d'État et au monde de l'enseignement moderne. Ils connaissent en général au moins une langue européenne, surtout le français, mais éventuellement l'anglais. Ils sont les passeurs des connaissances modernes et des idées nouvelles et peuvent déjà entrer dans le débat politique, comme le montre l'avis de Boutros al-Boustani. Ils ont souvent une double dimension d'encyclopédiste, transmission des connaissances et propagateur des nouvelles conceptions de l'organisation des sociétés. On a un exemple parfait dans l'affaire dite des darwinistes. En 1882, à l'occasion du décès de Darwin, un enseignant américain tient des propos très favorables à l'évolutionnisme au Syrian Protestant College, qui sont ensuite relayés par des articles écrits par des enseignants arabes du Syrian Protestant College. Cela provoque la colère du bureau de supervision américain qui exige des sanctions. Des étudiants qui se sont solidarisés avec leurs professeurs sont renvoyés. Le département médical est dissous et reconstitué avec de nouveaux enseignants venus des États-Unis. Mais les dissidents darwinistes sont recueillis par les églises orthodoxes, par les écoles orthodoxes de Beyrouth, qui sont très contents de rafler des enseignants de très bonne qualité. Et donc, pour les Grecs orthodoxes, il n'y a aucun problème avec le darwinisme. Et il faut signaler, parce que c'est un élément important, que le darwinisme ne pose pas particulièrement de problème dans les écoles musulmanes de Beyrouth et de Damas. Et à la grande mosquée des Abayades, on le sait par des études qui ont été faites, on discute entre chairs de savoir si Darwin a raison ou a tort. Il y a là une richesse intellectuelle et une ouverture au monde dans cette fin du XIXe siècle qui est absolument exceptionnelle, puisque ce sont les Américains qui interdisent les darwinistes et que les Arabes, y compris les musulmans, les accueillent. Tandis que Beyrouth incarne la modernité ottomane, Damas apparaît une ville beaucoup plus conservatrice. Les écoles missionnaires européennes sont beaucoup moins nombreuses, tandis que là, les écoles modernes de l'État ottoman leur font concurrence. C'est là la distinction qui va amener des divergences continues entre Damas et Beyrouth. Beyrouth, c'est la modernité avec les écoles étrangères. Damas, c'est déjà une modernité qui est plus centrée sur l'État ottoman réformateur. Là, sur les provinces ottomanes de 1864, va tenter l'expérience d'une grande province de Syrie, la Vilayet Souria, là vous l'avez ici, avant pour chef-lieu Damas. Alors, ceci est absolument exceptionnel, parce que normalement, dans le système administratif ottoman, le Vilayet est défini par sa capitale, Vilayet de Damas, enfin, normalement ça aurait été Vilayet de Damas, puisqu'on a Sanjak de Jérusalem, Vilayet de Mossoul, Vilayet de Bagdad, Vilayet de Basra. Ici, de façon exceptionnelle, c'est pas Vilayet al-Sham ou Vilayet Damas, c'est Dimashq, c'est Vilayet Souria. C'est-à-dire, donc, dans le système ottoman, l'identité syrienne est maintenant suffisamment inscrite pour donner le nom de la circonscription administrative de Syrie. Et les Ottomans tentent ainsi, en 1864, la constitution d'une grande Syrie administrative, avec des conseils provinciaux un peu partout, dans les grandes villes. Mais ensuite, on le reviendra dessus, finalement, les Ottomans feront machine arrière et créeront un vilayet de Beyrouth à côté du vilayet de Syrie, et rendront indépendant le Sanjak de Jérusalem par rapport à Damas. Le fait le plus important en Syrie est l'accélération du processus de constitution de la grande propriété foncière dans le cadre de l'enregistrement des titres de propriété des terres et de la remise en culture de l'espace contrôlé jusque-là par les Bédouins. La pacification ottomane, tout à fait effective à partir de 1860, est le facteur premier de cette expansion de l'agriculture que suscite aussi la commercialisation des produits agricoles. Si la plupart des grandes familles ont détenu ou continuent de détenir des magistratures religieuses, elles commencent à s'orienter vers des fonctions d'autorité dans l'État ottoman. Ainsi, les Azaïri ou les Azaïrlis, si on les dit à la turque, c'est-à-dire les descendants d'Abdelkader, se constituent de grandes propriétés foncières dans le nord de la Palestine, le Golan et le Oran, où ils installent leurs émigrés algériens. Comme ces derniers sont armés, ils forment une véritable milice locale à disposition de leurs maîtres. À la fin du XIXe siècle, il y a plusieurs milliers d'Algériens armés qui constituent la première force militaire non légale de la région. De façon plus générale, disposant de grandes propriétés, du contrôle des fonctions administratives nouvelles, les grands notables musulmans se constituent de vastes clientèles par différentes formes de patronage. Si elles sont en compétition entre elles, elles savent aussi s'allier par des unions matrimoniales. C'est très amusant encore aujourd'hui de voir la complexité des relations matrimoniales qui regroupent toutes ces grandes familles sunnites de Syrie, Liban, Jordanie et Palestine, et qui continue donc aujourd'hui, mais qui est une création de la seconde moitié du XIXe siècle. Les chrétiens et les juifs, qui disposent de relations privilégiées avec les Européens, investissent les professions commerciales et financières. Si les tensions communautaires peuvent parfois se faire sentir, l'ordre ottoman règne maintenant. Et certaines familles chrétiennes se lancent à leur tour dans la constitution de grandes propriétés foncières, mais souvent sur des formes plus modernes, c'est-à-dire sous la forme de sociétés de mise en valeur des terres, et non plus de propriétés foncières au sens de grandes propriétés. Ce sont des sociétés collectives, des sociétés privées, des sociétés anonymes qui se lancent. Le cas le plus célèbre, c'est la famille Chursault de Beyrouth, qui se constitue de gigantesques domaines agricoles en Galilée et en Syrie. La Palestine, ou plus exactement le Sandjak de Jérusalem, présente une situation assez analogue à celle de la Syrie. Le rétablissement de l'ordre public, réalité concrète après 1860, met fin aux violences entre villages et permet ainsi l'extension des cultures dans les régions de hauteur, en particulier des cultures arbustives. Les oliveraies alimentent la production de savon, de naplouse, vendue dans tout le Proche-Orient. C'est une forme, mais ce qu'on appelle nous le savon de Marseille, le savon de naplouse. Mais c'est un produit qui est en pleine croissance économique à la fin du XIXe siècle parce qu'il est considéré comme très pur et les musulmans l'utilisent pour les ablutions dans tout le Proche-Orient. On commence à remettre en culture les régions de basse altitude, ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est à partir du moment de la fin du petit âge glaciaire, on revient sur les littoraux dans l'ensemble de la Méditerranée. Et c'est la découverte d'une nouvelle source de revenus qui incarne exactement la modernité de la seconde moitié du XIXe siècle. Il y avait des oranges sur les littorages, dans des vergers, c'était tout à fait secondaire. Ces oranges ont été progressivement sélectionnées par les agriculteurs arabes pour donner naissance à ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de orange de Jaffa. Cette orange de Jaffa aurait été introduite, dit-on, par les Portugais à la suite des grandes découvertes. C'est pour ça qu'en arabe, on dit le portugal, la portugaise pour l'orange. En tout cas, cette orange de Jaffa est d'abord destinée au marché local, mais son exportation vers le marché européen débute après la guerre de Crimée. Puisqu'à côté de la production de l'orange, vous avez la navigation à vapeur et le développement de la ville de Jaffa. Donc, vous avez une transformation économique du littoral palestinien qui se passe progressivement à la culture des agrumes dont le marché majoritaire devient l'Europe. Et là, on a tout le schéma du développement de la fin du XIXe siècle. Et soyons clairs une fois pour toutes, ce développement de la culture des agrumes est exclusivement arabe dans cette période. Parallèlement, les villages souches des régions de hauteur participent activement au repeuplement rural de la Transjordanie, sensible à partir de la seconde partie du XIXe siècle. Comme dans les autres régions de la Badia, c'est-à-dire donc de l'espace du nomadisme, on trouve ainsi des populations tribales en voie de sédentarisation et l'installation de réfugiés caucasiens fuyant l'Empire russe, les Mouagirs. Ici, essentiellement en Transjordanie, ce sont des Tcherkesses, des Circassiens et des Tchétchènes. Là encore, on a à partir de 1860-1880, ce phénomène absolument fascinant qui remonte de la Syrie du Nord jusqu'à Amman à peu près, c'est le repeuplement des villes mortes. C'est ce qu'on appelle les villes mortes, c'est des centaines de sites romains et byzantins, et probablement d'ailleurs aussi des premiers siècles arabo-omeyyades en tout cas, qui ont été progressivement abandonnés par les populations sédentaires à des périodes qu'on a encore beaucoup de difficultés à dater. Et donc les villes mortes commencent à être repeuplées de la Syrie du Nord jusqu'à Amman par l'arrivée des nouveaux sédentaires, soit des immigrants venant des régions centrales, des collines, soit par des Tcherkesses, des Tchétchènes, etc. Après la guerre de Crimée, Jérusalem se développe à la fois comme ville de pèlerinage et comme ville de gouvernement. Les organisations missionnaires, soutenues généralement par leur gouvernement, multiplient les établissements d'accueil. Signe des temps, l'agence Cook organise les premiers circuits touristiques en Terre Sainte à partir de 1868. C'est-à-dire que maintenant, à partir de 1868, vous pouvez prendre un billet de l'agence Cook pour aller à Jérusalem, l'agence Cook vous faisant tout le trajet et vous logeant aux différentes étapes. Les heurts entre églises chrétiennes autour des lieux saints se reproduisent régulièrement, mais la diplomatie européenne réussit, avec le concours de l'autorité ottomane, à empêcher tout débordement majeur. Fait nouveau, au début des années 1870, les chrétiens orthodoxes arabes tentent de rejeter le contrôle des moines grecs sur le patriarcat de Jérusalem, et dans ce combat, ils reçoivent le soutien de la Russie, ce qui inquiète évidemment les autres puissances européennes. Mais surtout, la période voit le début du démarrage démographique. Dans le cadre de la future Palestine mandataire, on aurait 340 000 habitants en 1850, soit 300 000 musulmans, 27 000 chrétiens et 13 000 juifs, 369 000 en 1861, dont 325 000 musulmans, 31 000 chrétiens, 13 000 juifs, 462 000 en 1881, 403 000 musulmans, 43 000 chrétiens, 15 000 juifs. Ces indications ne prennent pas en compte les habitants non ottomans, surtout des Allemands et des Juifs. L'Alliance israélite universelle travaille à rendre productive la population juive traditionnellement d'inspiration religieuse et qui estimait que son rôle essentiel était d'étudier la loi et de prier et que les autres juifs du monde devaient les financer par l'aumône. Et ça finit par exaspérer les Crémieux et les Montefiori, donc les Crémieux du côté français, Montefiori du côté anglais, qui trouvent que décidément ces juifs religieux sont des incapables et des mendiants, et qu'il faut les mettre au travail pour les rendre capables de pouvoir produire eux-mêmes leur propre substance. Et donc, dans ce cadre-là, l'Alliance israélite universelle crée l'école agricole de Mikvé Israël en 1870, près de Jaffa. Évidemment, cette modernité de l'Alliance israélite universelle se heurte au conservatisme de l'orthodoxie juive. D'autant plus que pour équilibrer les comptes, les gérants de l'Alliance israélite universelle sont obligés d'utiliser des travailleurs arabes sur le domaine de Mikvé Israël. Dans la seconde moitié des années 1870, des immigrants juifs de Russie arrivent en certain nombre. Il ne s'agit pas cette fois de religieux orthodoxes comme les immigrations précédentes, mais pour l'instant, ce sont des aventures individuelles et non pas des mouvements collectifs. L'exploration archéologique de la Terre Sainte se poursuit. On veut par là montrer la véracité de la Bible remise en cause par les travaux des philologues. L'événement notable est la création en 1865 du Palestinian Exploration Fund, dont le but proclamé est de faire un inventaire complet de la Palestine, aussi bien du point de vue géographique qu'archéologique, en comprenant aussi les mœurs et les coutumes des habitants. L'inspiration religieuse protestante est absolument évidente, avec toujours cette teinte de millénarisme protestant qui pense qu'un jour ou l'autre, les Juifs doivent revenir en Terre Sainte avant d'être convertis au christianisme, car c'est une étape essentielle vers l'avènement du millénium, donc de la fin des temps, ce qui est une chose évidemment totalement souhaitable. Ainsi, en 1875, lors de l'assemblée annuelle de l'association, le comte de Shaftesbury, qui est un millénariste protestant, réformateur, qui est aussi réformateur social et inlassable défenseur de la venue des Juifs en Terre Sainte, fait une déclaration qui va devenir célèbre à cause de sa très longue postérité. Nous avons ici une terre à la fertilité abondante et riche d'histoire, mais presque sans un habitant. Une terre sans peuple, et regardez, dispersée dans le monde, il y a un peuple sans terre. Donc, formule qui sera ensuite raccourcie, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, et qui posera tous les problèmes du sionisme au XXe siècle. Mais il est intéressant de savoir que la première occurrence vient des millénaristes protestants et du comte de Shaftesbury, qui lui-même est un réformateur social dans l'Angleterre victorienne. À la préoccupation religieuse s'ajoute le fait que les premiers envoyés du Palestine Exploration Fund sur le terrain sont recrutés dans le corps du génie de l'armée britannique. C'est le cas des lieutenants Horatio Kitchener et Charles Conder, qui font les premiers relevés dans les années 1872-1874. On les soupçonne de ne pas avoir que des préoccupations archéologiques. Donc je vous préviens, M. Horatio Kitchener, on en a au moins 50 cours, on le trouvera. Puisque là, pour l'instant, nous l'avons un jeune officier qui fait des relevés archéologiques et terminera comme le Lord Kitchener, ministre de la guerre de 1914 à 1916. Passons à l'Irak. Si Beyrouth exprime la modernité ottomane et Damas, une version plus conservatrice, les trois provinces mésopotamiennes, Mossoul, Bagdad et Basra, sont perçues par le pouvoir central comme des régions arriérées et barbares où les Ottomans réformés apportent la civilisation. Ils envoient le chef de file des réformateurs ottomans. Non, il n'est pas là. Enfin, voilà sa photo. C'est le fameux Medat Pacha. Qui vient réorganiser la région en 1869 en fonction de la loi sur les vilayets de 1864. Medat Pacha a fait ses premières armes dans les Balkans où il a rétabli l'ordre dans les régions qui lui ont été confiées et c'est un organisateur énergique. Il travaille à pacifier la région, à rendre navigable le Tigre et l'Euphrate, à relancer les travaux d'irrigation et à faire respecter l'autorité ottomane dans le Golfe. Donc là, c'est Medat Pacha. On va avoir l'occasion de le revoir un certain nombre de fois, Medat, cette année et l'année qui vient. Et ici, donc, vous avez une carte supposée des répartitions confessionnelles et ethniques de l'Irak d'aujourd'hui, mais qui peut nous servir de référence, évidemment, pour le 19e siècle. Partout, la sécurité domine dans les marges de l'Empire. Au nord, les gouverneurs ottomans doivent imposer leur autorité sur les régions montagnardes peuplées de Kurdes, qui jusque-là avaient disposé d'une grande autonomie, tout en reconnaissant formellement la souveraineté ottomane. Donc là, il faut bien comprendre les logiques. Il n'y a pas d'empire sans négociation. Les Ottomans, comme tous les empires, avaient négocié sur leur marge avec les chefs locaux, en particulier ces montagnards kurdes qui étaient absolument insupportables. Mais le but de la négociation, c'est aussi de les intégrer au système impérial en leur donnant des titres impériaux. D'où une question vaine de savoir si les Kurdes étaient indépendants ou non sous l'époque ottomane. Ce n'était pas dans l'outillage mental de l'époque. Maintenant, en cette fin du XIXe siècle, les Ottomans essayent d'établir l'ordre. Donc, ils essayent de limiter l'autonomie des grands chefs tribaux kurdes, en intégrant le plus possible ces Kurdes au système impérial. Mais le brigandage reste endémique, et le problème supplémentaire, c'est que les tribus kurdes se moquent royalement de l'existence d'une frontière turco-persane, et passent alternativement d'un côté et l'autre, et comme c'est encore plus le désordre du côté persan que du côté ottoman, à chaque fois qu'on essaye de rétablir l'ordre, les gars filent de l'autre côté en attendant que ça se calme du côté ottoman pour repasser la frontière. La partie centrale, peuplée majoritairement d'Arabes sunnites, est mieux contrôlée. Néanmoins, le regroupement tribal reste essentiel en dépit d'émergence d'élites urbaines. Les grandes tribus bédouines sunnites sont nettement orientées vers le désert syrien, ce qu'on appelle la Badia al-Sham, et la vallée du Haut-Euphrate, la Jézirée. Il n'échappera à personne que Badia al-Sham et Jézirée, c'est le territoire actuel de l'État islamique. Au sud de Bagdad, la population arabe est massivement chiite et représente la majorité de la population des trois vilayettes. La conversion au chiisme est relativement récente. Les grandes villes saintes chiites, Najaf, Karbala, Qasimain et Samarra, se comportaient comme des entités quasi indépendantes. L'activité intellectuelle des religieux chiites est intense, mais dans le cadre de la tradition chiite, avec un important bagage philosophique, puisqu'en gros, le chiisme de la seconde moitié du XIXe siècle continue la tradition philosophique du néoplatonisme depuis l'Antiquité. Et il y a une vraie production intellectuelle, une réflexion qu'on n'a pas en sunnisme, dans ces centres intellectuels chiites. Mais en même temps, ces chiites de la Mésopotamie sont en relation étroite, à cause des villes saintes, avec les chiites persans et indiens. Et comme la Grande-Bretagne de Midland et que la Grande-Bretagne a confisqué les biens d'un certain nombre de maharajas, si vous voulez, chiites, l'Angleterre a pris le contrôle des sources de financement que les musulmans chiites indiens envoyaient aux villes saintes de l'Irak. Et donc, c'est les consuls britanniques qui distribuent aux mujtahides, aux religieux chiites d'Irak, l'argent des musulmans chiites. Donc, c'est un puissant instrument d'influence pour les Britanniques sur les villes saintes. Les autorités ottomanes musulmanes sunnites ne reconnaissent pas l'existence d'une personnalité religieuse chiite distincte, mais entretiennent des relations pragmatiques avec les différents pouvoirs chiites. La méfiance reste permanente parce que l'on soupçonne les chiites d'être très favorables à la Perse chiite, qui est à l'époque l'adversaire quasi héréditaire des Ottomans. Il va en résulter une conséquence très considérable pour l'avenir, c'est que la quasi-totalité de l'administration ottomane des trois provinces est composée d'Arabes sunnites, ce qui ensuite amènera sa reproduction à l'époque de la création de l'État irakien au lendemain de la Première Guerre mondiale et au problème que l'on a aujourd'hui. Les Juifs constituent la minorité non musulmane la plus importante, 4% de la population des trois vilayettes, et jouent un rôle très important dans l'économie urbaine. Et là, il faut faire une distinction, les Juifs d'Irak sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus économiquement dynamiques que les Juifs du Levant, en particulier parce qu'ils font du commerce avec l'Inde et avec la Chine. À partir de Basra, en Asie, c'est très important cette diaspora chiite, juive irakienne, parce que très rapidement, là encore, c'est comme pour les chiites, ils font du commerce dans des zones qui sont contrôlées par l'Empire britannique. Donc, ils entrent en relation avec le système impérial britannique, de la même façon que les chiites sont contrôlés par les financements venus de l'Inde britannique. Les grandes tribus se comportaient en pouvoir autonome, menant leur propre guerre, ignorant la frontière persane, puisque je vous dis, c'est le désordre à peu près absolu de l'autre côté de la frontière. À partir de Basra, les Ottomans tentent de faire respecter leur autorité sur la péninsule arabique et une partie du littoral du Golfe. Ils ont réussi à se faire reconnaître leur autorité sur une fraction du littoral arabe du Golfe, ce qu'on appelle le Haza. Le fils et biographe de Midhat Pacha présente ainsi en 1908 l'action de son père. Je cite « Un simine de Bassora est situé sur les côtes du Nejd, ce qui est un peu exagéré, la petite ville de Koweït comportant 6000 maisons et dont les habitants sont tous musulmans. Namek Pacha, un des prédécesseurs de Midhat Pacha, avait essayé de placer cette population sous la juridiction du gouvernement. Mais elle avait résisté avec succès contre toute imposition de taxes et maintenu sa quasi-indépendance sous ses propres chefs, les descendants des Sabars venus du Nejd, 5 siècles auparavant, en fait du XVIIIe siècle. Cette population avait conservé un gouvernement démocratique qui élisait elle-même ses juges, cadis, et ses maîtres d'école. Vu l'exiguïté du territoire, les habitants se consacraient au commerce maritime et plus de 200 bâtiments de divers tonnages sillonnaient l'océan Indien vers les côtes de Zanzibar et monopolisaient la pêche des perles du golfe Persique. Quoiqu'ils eussent un drapeau national, ils hissaient cependant quelquefois le pavillon hollandais ou anglais pour profiter de certains privilèges accordés par les capitulations à ces couleurs. Midhat Pacha, pour mettre fin à cette situation équivoque, entra en négociation avec les gens de Koweït et leur offrit la pleine jouissance de leur autonomie et de leurs privilèges sous l'administration de leur propre cher Sabah, à condition qu'ils se reconnaîtraient sujets ottomans et adopteraient le drapeau turc comme un signe national. Ils acceptèrent et le territoire de Koweït devient un sanjak du vilayet de Bagdad, suivant le traité signé à cet effet et confirmé par des bérates ou lettres patentes de Constantinople. Donc là, vous avez la description du retour des Ottomans dans le Golfe, mais un Golfe qui est dominé par les Britanniques. Et donc, toute la question est de savoir comment les différentes puissances du Golfe vont se comporter face aux deux puissances impériales, la Britannique et l'Ottomane. Je ne cache pas qu'ils préfèrent la Britannique, parce que les Britanniques, bon, ils se contentent de contrôler les relations extérieures, et n'entrent pas dans les affaires intérieures, tandis que les Ottomans, ce sont des modernisateurs qui apportent tout l'état de la civilisation moderne. Encore une fois, il faut bien comprendre que dans ces régions-là, comme pour l'Égypte en Afrique centrale, les Ottomans sont des représentants de la civilisation européenne et de l'état moderne. Et en tout cas, ils se pensent comme ça. C'est pour ça qu'on a pu parler de l'orientalisme des Ottomans quand ils décrivent les populations de l'Irak ou du Golfe dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Plus loin, comme au Nejd, qu'on a vu la dernière fois à propos des voyages de Palgrave, la souveraineté ottomane est plus une revendication qu'une réalité. La fin de l'aventure de Muhammad Ali a entraîné le départ des troupes dites égyptiennes et a permis la restauration d'un second État saoudien qui reconnaît formellement l'autorité ottomane, mais qui joue surtout sur l'équilibre d'influence entre les Britanniques du Golfe et les Ottomans pour maintenir une indépendance de fait. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des historiens, la politique du désert, qui est aussi tordue que la politique mondiale, avec des alliances, des contre-alliances, des renversements d'alliances, etc. Mais qui est une excellente formation à la connaissance de la politique internationale, comme montreront l'action des Saouds au XXe siècle, qui ont été formés à la politique du désert avant de se jeter dans la grande politique internationale. Le cheikh de Bahreïn, menacé par les Saoudiens, demande à la fois la protection des Ottomans et des Britanniques. Il reconnaît ainsi formellement l'appartenance de Bahreïn à l'Empire ottoman et l'autorité du calife sur les musulmans. Néanmoins, grâce à l'ouverture du canal de Suez, les Ottomans tentent de se réimplanter dans le sud de la péninsule arabique. Ils réussissent en 1871 à prendre le contrôle de la plaine littorale du Yémen, mais se heurtent à la résistance permanente des chers des chefs montagnards zaydites. Donc le Yémen va être un espèce d'enfer ottoman jusqu'à la fin de l'Empire, où les Ottomans vont se battre contre l'imam de Sana, qui est le chef de la communauté zaydite, c'est-à-dire c'est un schisme, mais ce n'est pas le schisme du haut décimain, c'est un troisième schisme, si vous voulez, les zaydites, qui est plutôt un mi-chemin entre les sunnites et les chiites que proprement chiites de ce côté-là. Dans le golfe et dans la péninsule arabique, les Ottomans se heurtent à la présence britannique. Le golfe est considéré comme l'une des routes des Indes, donc dépend de l'Inde britannique, de la résidence de Bombay, Mumbai en argot contemporain. Au nom de la lutte contre la piraterie, des accords sont conclus entre les Britanniques et les différents émirats, c'est-à-dire que les Anglais faisaient des offres que les gens locaux ne pouvaient pas refuser, sinon ils en bombardaient. Et on arrive ainsi progressivement à la constitution de ce qu'on appelle en 1853 la Côte de la Trêve, qui correspond grosso modo à l'actuelle Fédération des Émirats. De toute façon, ces petits États dépendent du commerce avec l'Inde et apprécient la protection britannique contre les ambitions de leurs voisins ottomans, persans ou saoudiens. Le rivage de l'océan Indien appartient aussi au système britannique. Aden a été occupée en 1838 et est une station de ravitaillement dont l'importance croît comme dépôt de charbon et comme position à proximité du canal de Suez. Oman est la grande puissance arabe et musulmane de l'océan Indien. Son domaine s'étend jusqu'à Zanzibar et une partie du littoral de l'Afrique de l'Est, créant ainsi toute la vaste culture swahili qui existe encore aujourd'hui. En fait, les Omanais vont arriver jusqu'au Rwanda actuel. Donc là, c'est une autre pénétration africaine qui n'est plus celle de la vallée du Nil, mais celle des Omanais qui vont arriver jusqu'à l'Afrique Rwanda-Burundi. C'est la pointe ultime de l'arrivée des Omanais au XIXe siècle en Afrique. Ils dominent la traite islamique des esclaves, sont présents dans le commerce de l'ivoire et développent une économie de plantation du clou de girofle. Au nom de la lutte contre la traite, la marine britannique impose son contrôle du commerce maritime. En 1861, les Britanniques imposent la séparation d'Oman et de Zanzibar et ensuite s'imposent progressivement leur protectorat de fait, puis de droit, sur l'ancien empire romanais, mais à la britannique, c'est-à-dire par petits coups, sans faire exprès, sans s'en rendre compte, et jamais dans un texte vraiment formalisé. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, les Anglais ont un protectorat sur l'Oman, mais on ne pourrait pas trouver le texte dans lequel les Anglais ont eu un protectorat sur l'Oman. Donc ça, c'est typiquement britannique. Hein. À partir de Midat Pasha, les gouverneurs ottomans travaillent à sédentariser les populations nomades en imposant le code foncier de 1858 en Irak. Donc, le succès est notable puisqu'on serait passé de 35% de nomades en 1867 à 25% en 1890 et à 17% en 1905. La sédentarisation ne met pas fin aux structures tribales, mais provoque de très fortes tensions sociales, puisque, comme dans le reste de l'Empire, les grands chefs tribaux enregistrent leur nom les titres des propriétés des terres. Ces chefs tribaux s'allient avec les notables urbains pour constituer des grandes propriétés foncières. Bénéficiaires de l'ordre ottoman réformé, ils agissent dans le sens du rétablissement de l'ordre, mais ils rencontrent de très fortes résistances de la part des paysanneries qui rejettent les multiples taxations qu'on lui impose. Les insurrections tribales sont fréquentes, entretenant un climat de violence permanente dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Donc là, je vais aborder dans les trois minutes qui me restent un nouveau sujet qu'on développera largement la fois prochaine. c'est la question des jeunes Ottomans et de la réforme de l'islam. L'émergence de l'État moderne dans les pays musulmans du XIXe siècle pose un défi essentiel pour les structures traditionnelles d'organisation de la religion islamique, qu'elles fassent ou non partie de l'appareil d'État. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les progrès de l'État moderne dépossèdent progressivement l'islam de sa marge d'autonomie de société civile, si vous voulez. D'un côté, par exemple, les tribunaux religieux perdent de plus en plus de compétences au profit des tribunaux d'État qui utilisent maintenant des codes juridiques sur le modèle européen. Donc on voit transformer les cadis que laissent la main progressivement à des juges formés dans des écoles de droit. Et de l'autre côté, l'État s'empare progressivement du contrôle des fondations pieuses. Et c'est donc l'État qui répartit l'argent des fondations pieuses aux institutions musulmanes. Donc, cette seconde moitié du XIXe siècle voit ce mouvement qui va se continuer au XXe de prise de contrôle de l'appareil religieux par l'État, qui est une étape indispensable pour comprendre les événements d'aujourd'hui. Parce qu'on a toujours tendance à dire en islam, c'est la religion qui contrôle l'État. Non, ce qui est en train de se passer, c'est le contraire. C'est l'État qui est en train de prendre le contrôle de la religion dans le cadre de l'État moderne. La première génération des réformateurs a été recrutée dans les milieux traditionnels, comme on l'a vu, des maisons des hommes de pouvoir, des beylts, et dans celui des écoles religieuses, des madrassas, qui fournissaient les personnels religieux sunnites. Autrement dit, la première génération des réformateurs, elle est issue, ce qui était normal, des institutions traditionnelles. Mais assez tôt, les besoins de l'État et de l'appareil militaire ont conduit à faire appel à des jeunes gens envoyés en Europe pour être formés au nouveau savoir et à la constitution de premières écoles étatiques destinées à produire les cadres de l'État et à faire concurrence des écoles missionnaires. Donc on va passer, on verra ça la fois prochaine, mais on va passer progressivement d'un enseignement de type traditionnel comme représente ce dessin où vous avez un cheikh dans une madrassa s'adressant à des jeunes de différents âges, des enfants et des adolescents, il y a même un barbu, vous voyez, où il explique un texte religieux. Et on va passer progressivement de ça, qui est l'image traditionnelle, à la salle d'école européenne avec le maître sur l'estrade. Et ça nous rappelle cet élément fondamental qu'il faut bien avoir en tête. La modernisation, ce n'est pas simplement des textes, des concepts et des institutions. La modernisation, c'est une transformation des disciplines corporelles, des jeux du corps entre une culture traditionnelle et une culture moderne de l'Europe. C'est-à-dire donc que c'est le corps lui-même qui se transforme et pas simplement les objets qui entourent les corps. Mais tout ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour aujourd'hui.